Mr. President.
Monsieur le Président, chers membres de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, mesdames et messieurs, j'apprécie toujours à leur juste valeur les rencontres entre vous et moi. Et cette réunion arrive vraiment à point nommé. C'est la première occasion que nous avons ensemble de parler de la crise en Ukraine, de l'étudier et d'en envisager les conséquences à plus long terme pour notre alliance, mais aussi d'aborder certaines des questions essentielles qui seront à l'ordre du jour du sommet de l'OTAN qui se tiendra en septembre au Pays de Galles. Aujourd'hui, je voudrais concentrer mon propos sur trois questions. Les questions de défense, les dépenses de défense et le lien solide qui continue d'unir l'Europe et l'Amérique du Nord. Je vous avais parlé en octobre dernier à Dubrovnik et je vous avais dit que la défense restait importante, mais qu'il nous fallait bien mieux expliquer pourquoi la défense restait importante. Eh bien, les actions de la Russie en Ukraine nous donnent, hélas, une explication la plus limpide qui soit, malheureusement, de la raison pour laquelle la défense reste indispensable aujourd'hui et le restera demain. Depuis la fin de la guerre froide, l'OTAN a travaillé bec et ongle pour établir un réel partenariat de sécurité avec la Russie. Pendant cette période, les réponses de la Russie à nombre de nos initiatives nous ont aidés à panser les plaies du passé, à maintenir la stabilité et la sécurité sur l'ensemble de la zone euro-atlantique. À la fin de l'année dernière, nous faisions plus ensemble, plus avec la Russie que jamais. Hélas, ces derniers mois, la Russie a démontré qu'elle était prête à redessiner les frontières. Par la force au besoin, la Russie est prête à recréer des lignes de démarcation qui avaient disparu en Europe. Elle est également prête à déstabiliser des pays souverains en poursuivant ses propres objectifs géopolitiques. En ces temps, il est donc nécessaire de s'élever d'une voix forte contre tout cela. Et c'est ce que l'OTAN a fait. Et c'est ce que l'OTAN doit continuer à faire. Continuer par le truchement de ses alliés transatlantiques au sein de l'Alliance, mais aussi en partenariat avec l'Ukraine et avec les autres partenaires. Cette crise a démontré que la défense est indispensable pour nos alliés et que l'OTAN est plus nécessaire et utile que jamais. Nous avons pris des mesures immédiates afin de renforcer notre défense collective. Nous avons déjà plus d'avions en survol, plus de navires en mer et plus d'exercices au sol qu'auparavant. La semaine prochaine, avec les ministres de la Défense et des Alliés, nous discuterons d'un plan d'action pour un état de préparation correct qui sera probablement entériné au sommet en septembre, qui comprend une revue complète de nos plans de défense, de notre posture de force, de la taille des scénarios et des calendriers d'exercice qui sont les nôtres, et qui comprend également la possibilité de déploiement supplémentaire. Ces mesures sont en tout point défensives. Elles sont dans le droit fil de notre mission de défense et de dissuasion contre quelque menace que ce soit. Elles sont dans le respect des obligations et engagements internationaux. Elles montrent que nous sommes prêts à faire ce qu'il faut aussi longtemps que cela sera nécessaire. Elles prouvent aussi que notre détermination est de protéger chaque coin de l'Alliance. L'OTAN ne faillit pas dans cette tâche et aucun allié ne devra faire cavalier seul. Dans le même temps, nous continuons à appuyer notre partenaire, l'Ukraine, à être à ses côtés, à soutenir son intégrité territoriale et sa souveraineté. Ainsi d'ailleurs que le droit du peuple ukrainien à l'autodétermination de son avenir sans ingérence de l'extérieur. Les élections présidentielles qui se sont tenues dimanche dernier ont été un pas très important dans cette voie. Elles permettent à tous les Ukrainiens, elles ont permis à tous les Ukrainiens de poser leur choix libre et démocratique, de lancer un dialogue national sans ingérence de l'extérieur. Elles ont permis de trouver une solution durable à la crise provoquée par l'agression illicite de la Russie. La crise a de toute évidence démontré pourquoi la défense est indispensable. Elle démontre également, cette crise, que les dépenses de défense sont indispensables. Et c'est le second point que j'aimerais aborder. Depuis 2008, les dépenses de défense de la Russie ont cru de plus de 10% en chiffres réels, et ce, chaque année. Soit une augmentation totale de bien plus de 50%. Et les observateurs pensent que cette augmentation sera encore plus galopante dans les années à venir. Sur cette même période, les dépenses totales de défense par les alliés européens ont été réduites de près de 10% en chiffres réels. Et certains alliés individuels ont même baissé leur budget de défense de plus de 40%. Aujourd'hui, seuls 4 alliés atteignent les 2% du PIB, c'est-à-dire l'exigence de dépenses de défense. 7 de nos alliés dépensent moins de 1%. Suite aux réductions de dépenses prévues par les États-Unis, les dépenses totales de défense sur l'ensemble du périmètre de l'action de l'Alliance devraient chuter cette année. Si nous voulons conserver une défense forte, il nous faut commencer à inverser la tendance. Nous devons dépenser plus pour la défense. Et nous devons dépenser mieux. Bien sûr, pour nombre d'alliés, les coupes dans les budgets de défense ont été le prix à payer pour une stabilisation de leurs économies. Mais nos économies commencent à remonter la pente et les alliés devraient maintenant être en mesure de revoir à la hausse leurs dépenses de défense. À cet égard, je salue les décisions qui ont été prises récemment par la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Roumanie qui ont décidé de réaugmenter leur budget défense. J'espère qu'avec votre soutien, tous les chefs d'État et de gouvernement leur emboîteront le pas et prendront le même genre d'engagement au sommet du Pays de Galles et se fixeront des objectifs individuels qui sont à la fois ambitieux mais jouables, idéalement avec un calendrier précis qui permettra de déterminer quand ces objectifs pourront être atteints. Toutefois, nous ne devons pas parler uniquement et exclusivement quantité dans les dépenses de défense. Nous devons également penser à la question de la qualité, c'est-à-dire produits que peuvent fournir ces dépenses de défense. Le tout n'est pas d'investir, mais de savoir comment investir. La semaine prochaine, les ministres de la Défense de l'OTAN vont passer en revue les améliorations significatives que nous avons enregistrées dans de nombreux secteurs des forces armées ces dernières années, s'agissant de la puissance de feu, de la déployabilité, du soutien, du maintien dans la durée de nos forces. Nous parlerons également de domaines capacitaires où le bât blesse encore, où il y a encore des lacunes. Le JSR, c'est-à-dire la surveillance, la reconnaissance, le renseignement interarmé, le ravitaillement en vol, le besoin d'améliorer, de renforcer les exercices, les entraînements, la formation pour des opérations à forte intensité et à grande échelle. Je pense que les Alliés pourront s'engager à combler ces lacunes capacitaires que je viens de citer et à faire plus au niveau multinational. C'est la raison pour laquelle nous devons aller de l'avant sur les initiatives d'interconnexion des forces et de défense intelligence, d'urgence. Nous devons également fixer des priorités claires. Certes, la crise actuelle va bien sûr influencer ces priorités, mais nous devons nous prémunir et ne pas devenir une alliance unidimensionnelle. Nous ne sommes en effet pas confrontés à une seule crise dans notre voisinage immédiat. Nous sommes face à tout un ensemble de crises à l'est, au sud, autour de nous. Des crises qui doivent nous faire veiller à développer les capacités, des capacités qui, au premier chef, nous permettront de maintenir notre capacité à mener l'ensemble des trois tâches essentielles qui sont les nôtres, c'est-à-dire la défense collective, la gestion des crises et, troisièmement, la sécurité en coopération. Ces trois tâches restent essentielles. En effet, ce sont des éléments qui se renforcent mutuellement. En effet, si nous voulons renforcer notre sécurité au sein de l'Alliance, nous devons être prêts à affronter des crises à l'extérieur de l'Alliance, à l'étranger. Et cela exige d'avoir les bonnes capacités et les bons partenaires. Inverser la vapeur et la tendance dans les dépenses de défense, acheter les capacités dont nous avons désespérément besoin, nous aidera aussi à générer un fardeau ou un partage du fardeau plus équilibré, un meilleur partage de la sécurité que nous partageons, ce qui m'entraîne tout naturellement vers mon troisième point.
Le lien transatlantique constitue la pierre angulaire de notre liberté, de notre prospérité, de notre mode de vie. Ainsi, il est essentiel que nous continuions à investir dans ce lien. Investissement politique, militaire et financier. Il est indispensable que nous partagions les responsabilités en matière de sécurité, à l'instar de la manière dont nous partageons les bienfaits de cette sécurité. Notre sommet de l'OTAN au Pays de Galles au mois de septembre prochain constituera une occasion unique pour réaffirmer ce lien qui existe entre nos deux continents. Il s'agira en outre de définir notre avenir commun. Et à ce sujet, Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter par votre entremise l'ensemble de l'Assemblée parlementaire pour le travail remarquable qui a été effectué dans le cadre de la déclaration sur les relations transatlantiques. Il s'agit là de qualité par rapport à une déclaration sur les relations transatlantiques au sommet des Pays de Galles. Les liens historiques, sociaux et politiques qui existent entre l'Amérique du Nord et l'Europe sont des liens profonds. Mais nous ne pouvons pas considérer cela comme étant acquis. Et c'est pour cela que je me tourne vers vous en tant que parlementaire pour vous inviter à continuer un rôle essentiel à l'heure de développer plus avant cet esprit transatlantique commun. Il s'agit d'avoir recours à votre influence en tant que parlementaire pour expliquer ces valeurs et cet intérêt essentiel qu'il y a dans ce lien transatlantique, notamment s'agissant de notre sécurité. Il s'agit également de rapprocher les uns et les autres, promouvoir la confiance, promouvoir les liens universitaires, de recherche, des échanges et d'autres initiatives transatlantiques. Par ailleurs, il s'agit également d'identifier et mobiliser les ressources nécessaires. Un véritable engagement, un véritable rôle parlementaire est également indispensable dans d'autres domaines. Cela vaut pour le soutien qu'il faut apporter à des accords ambitieux en matière commerciale et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis, ainsi qu'entre l'Union européenne et le Canada. Il s'agit de soutenir la diversification énergétique. Il faut ouvrir nos marchés énergétiques et réduire notre dépendance par rapport à des importations d'énergie de la part de pays tiers. Je salue tout particulièrement l'appel qui est lancé dans votre déclaration sur les relations transatlantiques, appel en vue d'un maintien des investissements pour qu'il y ait une défense crédible. Il est indispensable que les gouvernements alliés et les opinions publiques puissent entendre ce message. Et je suis persuadé que vous répéterez autant de fois qu'il le faudra ce message au niveau de vos parlements, auprès de vos électeurs, lorsque vous rentrerez chez vous. Vous êtes les experts en matière de politique étrangère et politique de défense dans vos parlements nationaux. Et c'est vous qui détenez les cordons de la bourse. Vous pouvez veiller à ce que des décisions en matière de défense nationale, mais également par rapport à la défense collective OTAN, eh bien que ces décisions fassent l'objet du traitement prioritaire qu'elles nécessitent et qu'elles méritent. Je sais bien qu'il ne s'agit pas là d'une tâche aisée, mais aujourd'hui, encore plus qu'auparavant, c'est une tâche essentielle. Mesdames et messieurs, j'ai été particulièrement frappé par un passage, un extrait de votre déclaration sur les relations transatlantiques. En effet, on indique que pour une tâche essentielle. Mesdames et messieurs, j'ai été particulièrement frappé par un passage, un extrait de votre déclaration sur les relations transatlantiques. En effet, on indique que pour l'Alliance, le test ou le critère n'est pas l'absence de différences, car de telles différences sont toutes naturelles dans une alliance de 28 démocraties souveraines. Ce qui est important, plutôt que cela, c'est la capacité à surmonter ces différences de telle sorte que nos forces relatives, nos différentes perspectives se complètent et convergent en vue d'un objectif et d'une direction commune. Le soutien parlementaire a été essentiel à l'heure de forger cette unité de vision. Et ça a été essentiel également par rapport à la réussite de l'OTAN pendant ces 65 premières années. Nous continuons de nous fonder sur votre soutien à l'heure où nous nous préparons pour le sommet de l'OTAN au mois de septembre. Nous voulons que l'Alliance continue d'être forte aujourd'hui, demain et à l'avenir. Je vous remercie de votre attention.